Et maintenant, c'est la première de bain de friture, garantie, sans odeur.
Mais pas sans éclaboussure, bien sûr!
Oui, bonjour! Le bain de friture, qu'est-ce que c'est?
Le bain de friture, c'est le troisième mardi du mois, un mois sur deux, à 14h. Et c'est une émission sur des sujets sociaux, mais pas que.
On est une équipe de Saint-Nazaire et au-delà qui produit des petits podcasts bien huilés et qu'on s'est dit, tabernacle, pourquoi pas une émission sur la grande radio associative JTFM?
Aujourd'hui, la thématique, c'est le droit au logement et l'hébergement d'urgence. Une thématique d'actualité face à la crise qui nous arrive toujours plus fort dans la gueule.
Il y aura bien sûr une interview du roi Baba, Jean-Baptiste Hérault, un éléphant du droit au logement et président du DAL.
Il y aura aussi une chronique sur la vie de Christine Brisset, la madone des squatteurs.
Et nous recevrons sur le plateau du bain deux membres historiques des maisons d'hébergement solidaire, centre d'hébergement d'urgence en squat de Saint-Nazaire, récemment expulsé.
Et pour commencer, un petit rappel de l'histoire du droit au logement. Tout de suite.
Hola, bonnes gens. Il n'a point fallu attendre notre époque pour qu'on parle des vagabonds, gueux et mendiants. Dès l'Antiquité, le sans-abrisme est connu par les textes de loi et d'histoire. Sous l'Empire romain, le pouvoir central cherche à mettre au travail toutes les personnes considérées comme vagabonds et nommées vagi. Plusieurs lois permettent aux propriétaires agricoles et à l'armée de réquisitionner des vagabonds et mendiants valides. Ces mauvais pauvres sont considérés comme inutiles car non taxables dans le système des corporats organisés dans l'intérêt de la fiscalité impériale. Ils sont dissociés par les pouvoirs des bons pauvres, veufs, orphelins, malades et invalides, qui sont l'objet de la charité chrétienne et pris en charge par les ordres religieux et la cité. Cette distinction se poursuit au Moyen-Âge, comme le dit Jean II le Bon en 1351. Ceux qui voudraient donner l'aumône n'en donnent à nul gens saints de corps et de membres, qui puissent besogne faire, mais les donnent à des gens contrefaits, aveugles, impotents et autres misérables personnes. Là encore, les vagabonds sont criminalisés, enfermés et mis aux travaux forcés. Cette volonté se poursuit sous l'Ancien Régime avec la création d'ateliers de travaux et une politique d'enfermement systématique dans les hôpitaux généraux. Au XIXe siècle, l'urbanisation massive et la révolution industrielle voient le développement de cette pauvreté composée de sans-logis et la construction de bidonvilles autour des centres urbains. La réponse est toujours l'enfermement et le vagabondage constitue un délit. Les sans-abri sont envoyés dans des dépôts de mendicité où ils sont rééduqués par le travail contre nourriture et logement. La fin de la Seconde Guerre mondiale voit les choses évoluer. Aux droits dits de liberté de la Déclaration de 1789 sont ajoutés des droits créances, qui donnent des devoirs à l'État français. Le droit au logement fait partie. C'est un droit constitutionnel, car objet des alinéas 10 et 11 de la Constitution du 27 octobre 1946. La fin de la guerre voit aussi l'apparition de centres d'hébergement et de réinsertion sociale et la création d'associations d'aide aux plus démunis, comme le Secours catholique, le Secours populaire ou Emmaüs. Dans les ruines laissées par les bombardements, les mal logés sont nombreux. Le pouvoir de réquisitionner des logements vides à de riches propriétaires a été donné aux préfets et aux maires, mais ces derniers n'en font que peu ou pas usage. Des voix s'élèvent pour dénoncer l'inaction de l'État et le manque de solidarité des plus aisés. Christine Brisset, à Angers, ouvre des squats pour les sans-logis et construit des logements avec le mouvement ouvrier des castors qui s'unissent pour construire eux-mêmes leurs logements. L'appel de l'abbé Pierre, durant l'hiver glacial de 1954, donne lieu à un élan de solidarité qui permettra à la fondation Emmaüs de mener la construction de nombreux logements. Si l'État français devient responsable de l'hébergement d'urgence, la gestion des centres d'hébergement et foyers conserve une gestion par les associations du social. Des associations non gouvernementales ont également formé le SAMU social et le numéro de téléphone 115 pour l'accueil et l'hébergement d'urgence des personnes sans-abri. Depuis de nombreuses années, les associations et organisations dénoncent le manque de places d'hébergement et la saturation du 115. Certaines associations, comme le DAL, procèdent à des occupations de logements vacants pour médiatiser la situation tout en logeant des sans-abri. Aujourd'hui encore, les associations du social sonnent l'alarme face à la crise économique et le désengagement des politiques publiques. Pour finir ce petit péplum historique, un extrait de l'adaptation du poème « L'hiver » de Jehan Rictus par Virus.
L'hiver et ses duretés, merde, l'hiver et ses duretés, merde, l'hiver et ses duretés, merde, l'hiver et ses duretés.
Je le prouve, c'est du pain assuré.
Et ses duretés, merde,
Et quant aux pauvres, ils n'ont qu'à se taire. Jour où il n'y en aurait plus sur terre, bien des gens seraient dans la purée, soit. Mais moi je vais sortir de mon antre avec le cœur et l'estomac, plein de soupirs et de fumée de tabac. Pas de quoi faire la danse du ventre. J'en ai soupé de ne pas briefer, d'être de ceux à ses pantoufles pour infuser dans la mistouffe. Quand y'a des moyens de se repiffer, y'a trop longtemps que je me balade la nuit, le jour, sans toi, sans rien. L'excès même de marmelade a fait se trotter mon ange gardien. Et donc tout seul je lève mon drapeau. Va falloir tâcher d'être sincère en disant le vrai coup de la misère. Au moins j'aurais payé de ma peau, souffrant pire que les malheureux. Parce que plus sensible et nerveux, je peux pas me faire à supporter mes douleurs et ma pauvreté. Oh, ce ne sera pas comme les vidés qui, bien nourris, parlent de nos locs. Faut que j'écrive mes soliloques, moi aussi j'en ai décidé. Je veux plus être désécrasé de la société contemporaine. Je vais dire les mots, les pleurs, les haines, ce qui s'appelle civilisé. Et qu'on me tue ou que j'aille en prison, je m'en fous. Je ne connais plus de contraintes. Je suis l'homme moderne qui pousse sa plainte. Et vous savez bien que j'ai raison. Et vous savez bien que j'ai raison.
Le 15 septembre 2022, suite à un long combat judiciaire avec la mairie, les maisons d'hébergement solidaire à Saint-Nazaire ont été expulsées par la police. Ces maisons hébergeaient des personnes sans-abri depuis février 2021. Le collectif Urgence Sociale, qui gérait les lieux, a tenu une conférence de presse le lendemain en présence de Jean-Baptiste Hérault, dit Baba, porte-parole du DAL France devant la mairie. Radio Friture était présent et nous avons pu lui poser quelques questions.
Voilà, alors bonjour, c'est le 16, on est le 16 septembre et aujourd'hui on est en présence de Jean-Baptiste Hérault du DAL, le président national de la Fédération du droit au logement, qui est venu soutenir les maisons d'hébergement solidaire et surtout soutenir les 10 personnes expulsées des maisons d'hébergement hier qui ont été expulsées sans solution. Donc la première question qu'on a, c'est un peu comment est né le DAL et pourquoi ?
D'abord, je ne suis pas président, je suis porte-parole.
Pardon.
Parce que président, ça ne me plaît pas. Enfin, tu vois, c'est pas très... Bon, ça renvoie à des personnes qu'on n'aime pas forcément. Mais le DAL est né en 90, donc ça fait 32 ans, d'une lutte d'un campement, justement, place de la Réunion, dans le 20e arrondissement, à l'époque où sévissait une vague spéculative importante lancée par l'équipe de Jacques Chirac, qui était maire de Paris, et qui avait lancé la reconquête de l'Est parisien. Et donc... avec des familles sinistrées, parce qu'il y avait une série d'incendies 4 ans plus tôt dans le même arrondissement, et beaucoup de personnes s'étaient retrouvées à la rue, hébergées quelques semaines à l'hôtel, et puis ensuite remis dehors. Et donc on avait occupé des immeubles vacants, en particulier celui 67 rue des Vignoles. Et puis ensuite, on avait occupé aussi des immeubles HLM, qui était un immeuble HLM qui était vide, deux immeubles HLM qui étaient vides. Et donc, pour nous remercier, le gouvernement à l'époque, Rocard, hein, à la demande du maire de Paris, de Chirac, donc nous avait expulsés. On avait fait un campement avec les 48 familles. On avait été soutenus largement, comme toutes les là aujourd'hui, toutes ces associations qui apportent leur soutien. Eh bien, c'était un peu la même chose à l'époque. Emmaüs avait amené des tentes. Et le gouvernement, d'ailleurs, Rocard avait cédé, avait reculé, avait décidé de ne pas réprimer. Donc, nous avait laissé dans le square. et on a obtenu le relogement de toutes les familles. Voilà. C'est comme ça que le DAL est né, d'une lutte collective. On a tiré les leçons d'ailleurs très vite, c'est-à-dire qu'il y a eu pendant la négociation avec les pouvoirs publics, on s'est rendu compte que, bah, d'une part, il fallait toujours être avec les représentants des familles, des expulsés, c'est jamais de négociation à part, il faut qu'il y ait représentants. Deuxième règle, on fait les dossiers parce que sinon c'est d'autres qui font les dossiers et à ce moment-là on perd une partie on fait les dossiers tous ensemble bien sûr, et on perd une partie des fruits de la lutte et d'efficacité. Et puis on a plusieurs formes d'action qui sont les campements, les réquisitions d'immeubles vides, les envahissements, on envahit une mairie ou un bailleur social pour obtenir des relogements, et puis ou les manifs de rue. Voilà, c'est ça le DAL, ce n'est que ça. Et depuis, c'est des
comités. Votre actualité, justement.
Là, l'actualité, c'est deux choses. D'une part, que les luttes locales se développent, ça c'est très important, parce que les luttes du logement, elles commencent au plan local, sous toutes les formes. Donc, il y a des luttes qui se font et qu'on soutient, ou qui sont à l'origine, qui sont lancées par des militants du DAL local. Et puis, la deuxième actualité, c'est organiser un soutien large et une mobilisation sur ces questions générales du logement. Il y a aussi la question des locataires HLM qui sont aujourd'hui menacés, qui sont maltraités, ont démoli leur logement, etc. Les locataires du privé aussi qui sont menacés, expulsés, dont les droits sont violés. Les mal logés, les sans logis, bien sûr. Les mal logés pour la loi Dalo, l'application de la loi Dalo et le relogement en logement social. Et pour les sans-abri, eh bien, la réquisition et l'hébergement, le respect du droit à l'hébergement jusqu'au relogement. Parce qu'on remet trop souvent les sans-abri dans la rue, c'est intolérable. Et c'est hors la loi, c'est illégal. Donc tous ces droits-là des habitants, des classes populaires, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit, doivent être respectés, mis en œuvre. Le droit au logement, c'est fondamental. Sans logement, on meurt. La rue, on meurt à l'âge moyen de 50 ans et on a 15 ans d'espérance de vie. C'est ça la réalité. C'est criminel, c'est un meurtre de laisser des gens dehors, et en plus avec torture à la clé, parce que tu meurs pas tout de suite, tu meurs après des souffrances et des maladies, etc. etc. Donc ça, c'est vraiment le fait ultime, la violence ultime, je veux dire, de ce système libéral, capitaliste dans lequel on est, qui encourage la spéculation immobilière, la gentrification ou l'épuration sociale des villes, des centres-villes, des anciens quartiers populaires qui sont remplacés par pour faire de l'argent, et le Airbnb, les locations touristiques qui confisquent en fait le parc locatif de logement, etc. Enfin bon, je vous en passe, mais aujourd'hui c'est sûr qu'il faudrait qu'il y ait une mobilisation massive et nombreuse des mal logés, des sans logis, des locataires et tous ceux qui les soutiennent.
Et justement, du coup, comment vous construisez votre rapport de force? Comment vous arrivez à gagner certaines luttes? Enfin, tu vois, concrètement, quoi.
Les luttes, on les gagne en s'appuyant à la fois sur les droits, sur la jurisprudence, le droit de la liberté de manifester. Donc ça, c'est un point très important qui nous permet aujourd'hui de contrer les interdictions de manifester qu'on subit de plus en plus fréquemment, et la répression policière également. Donc on peut installer des campements, on peut faire des manifestations dès lors qu'on ne gêne pas fondamentalement l'ordre public, on ne trouve pas l'ordre public, on peut manifester où on veut, quand on veut, dans la durée qu'on veut. En France, c'est un droit constitutionnel, la liberté de manifester. Après, il faut arriver à unifier. Donc il faut amener les associations, comme vous l'avez fait ici, c'est magnifique. Il faut amener les associations, les militants, les bénévoles à s'allier sur ces questions-là et à mobiliser les gens qui sont concernés, parce que c'est ça aussi qui est la base du sujet. Allier aussi, arriver à mettre en solidarité les mal logés, les sans logis, les locataires, et y compris les habitants des quartiers populaires HLM, ce qui n'est pas non plus évident, mais on peut, on l'a déjà fait, ça peut marcher. Et puis il faut à un moment donné dire on descend tous dans la rue, ça sera une nouvelle manifestation le 1er avril prochain. Ça sera manifestation pour le droit au logement, le droit à la ville, contre la spéculation et le logement cher. C'est une mobilisation européenne, et donc là on espère que en 2023, 1er avril 2023, fin de la trêve hivernale des expulsions, eh bien on sera nombreux, très nombreux dans la rue. D'ailleurs, il n'y a que comme ça qu'on arrivera en réalité à faire entendre l'oppression que nous subissons, que nous vivons aujourd'hui sur cette question du logement.
Dernière question parce qu'on avait été choqués par rapport à ce qui s'était passé un peu il y a quelques semaines en arrière, de voir en fait que tu as été lors d'une manifestation plaqué au sol par des policiers, emmené en garde à vue. Enfin voilà, ça c'est quelque chose, j'avoue, qui a été assez choquant pour beaucoup de gens pour qui la question du droit au logement et pour le droit de manifester compte. Et du coup, voilà, on voulait revenir un peu sur ce que tu peux dire de ça.
Ah, écoute, c'est pas la première fois et sans doute pas la dernière fois. J'ai été matraqué, j'ai eu mon lot de fractures au poignet, au bras, je sais pas où encore. Donc, c'est ça la vie militante aussi, c'est qu'à un moment donné, on est réprimé. Bien qu'on soit non-violent, on est réprimé. Et il faut continuer sans relâche. Bon, voilà, je pense que ils ont été obligés de me libérer. Et puis ça a tellement circulé sur les réseaux sociaux que ça a obligé le ministre du Logement à négocier. Bon, tant mieux, tiens, voilà, après tout. Du coup, on a eu un coup de chance, là, merci la police. Tu vois, comme quoi, bon... Non, mais après, j'ai pas vocation à jouer les héros, tu vois, non, ou les martyrs, non, mais... c'est pas mon truc. Hein.
Bien sûr.
Mais bon, voilà, c'est arrivé comme ça, et moi, je me suis assis par terre parce qu'ils nous interdisaient de nous mettre sur la chaussée alors qu'on avait déclaré qu'on manifestait sur la chaussée, etc., etc. Donc, ils n'avaient pas le droit de nous interdire de manifester sur la chaussée juste en face du ministère du Logement. Voilà. Donc, on fait valoir nos droits, nos libertés. Alors, c'est, des fois, ça clash un peu, quoi.
Super,
Moi j'ai une question. Pourquoi sur ces questions-là, tout à l'heure tu l'as dit que c'était un droit, mais pourquoi du coup il faut un rapport de force? Pourquoi c'est pas appliqué,
Parce que c'est le droit à gagner de l'argent sur tout ce qui vit, sur le vivant, contre le droit de vivre.
Merci.
Merci Jean-Baptiste.
On va maintenant écouter un petit enregistrement sur la vie de Christine Brisset. Christine Brisset, qui à l'époque était surnommée par les journalistes la fée des sans-logis, la Jeanne d'Arc des pauvres ou encore la Madone des squatteurs. Autant de surnoms d'ailleurs qu'elle appréciait pas tellement. Elle, ce qui lui importait, c'était d'agir contre la misère. Et elle a permis le relogement de centaines de familles qui vivaient dans des conditions désastreuses d'insalubrité après la Deuxième Guerre, dans un engin en ruine. Ce montage est tiré de la BD L'Insoumise de Chantal Montelier et Marie-Josée Jobert, BD inspirée du film de Marie-Josée Jobert, On l'appelait Christine, et le tout sur une musique de Kenny Arcana, Entre ciment et belle étoile. Bonne écoute.
Ciment froid, rue déserte, loin le ciel et le toit. On m'a dit à toi, le ciel t'aidera. Mon seul rêve n'étoile, cauchemar d'une vie qu'un espoir cassé. Bien noir comme mes nuits blanches, passé à la belle étoile. L'éclairus vide, la solitude me guette, l'envie de péter les plombs. Mène un dialogue dans ma tête, ouais j'ai coupé les ponts. Avec leurs lois et leurs baguettes, façon plus rien ne compte. Et même le poids de mon mal-être, alors je marre. Mais sans savoir où aller, j'en ai marre. Dans ma tête, trop d'idées noires installées, ouais je marre. Mais sans savoir où aller, si c'était dormir en frac. Dans les marges, une cage.
Christine Brisset naît en 1898 sous le nom de Charlotte Antoinette Kipfer dans une famille très pauvre. Elle deviendra dans les années 20 l'une des premières femmes pilotes en France. Puis pendant la résistance, elle rencontre son mari, un industriel angevin. Et c'est dans cette ville que, révoltée par l'inaction des pouvoirs publics, elle décide de combattre la misère. De 1945 à 1962, à la tête d'une petite armée de volontaires, constituée aussi bien d'étudiants, d'ouvriers que de femmes du monde, elle organisera plus de 800 occupations et fondera l'association Les Castors Angevins. Elle commence à agir au lendemain de la guerre dans un Angers en ruine, où des centaines de familles vivent dans des soupentes, des caves, sans eau ni électricité, au milieu des rats. Dès 1945, il y a une loi qui permet au préfet de réquisitionner des logements inoccupés pour y reloger les familles sinistrées. Mais rien ne se passe. Alors, avec sa petite équipe, elle organise des occupations de logements vides. En 1947, il décide d'occuper une grande demeure bourgeoise inhabitée
qui sert le week-end de lieu de rendez-vous pour des gens puissants. Il y a des ministres, un président de la Cour des comptes, de gros industriels qui s'adonnent en fait à la prostitution dans cette maison. Pour cette occupation, elle sera condamnée à 2 mois de prison ferme et à 16 000 francs d'amende. Et malgré cela, elle est soutenue par le ministre de la Reconstruction qui s'appelle Eugène Claudius Petit. Et qu'il l'appelle le soir de sa condamnation et il lui propose 1 milliard de francs donc pour construire des logements. La mairie d'Angers refuse l'argent car elle soupçonne une manipulation politique. À cette époque, Christine Brisset prend connaissance des constructions Castor, qui débutent à Lyon et à Bordeaux. Ce sont de petites associations qui aident des familles à construire elles-mêmes leur maison et qui permettent ainsi à ceux qui n'ont pas d'argent, donc pas accès aux prêts bancaires, d'avoir accès à la propriété ou de louer des appartements. Elle crée ensuite sa propre société, les Castors Angevins. Mais l'argent est toujours bloqué par l'administration d'Angers. Du coup, elle vend un bijou et achète des pelles, des pioches, du ciment. D'ailleurs, les castors construisaient eux-mêmes leurs parpaings, ce qui faisait d'ailleurs des maisons de très bonne qualité, apparemment. 4 mois plus tard, la caisse d'allocation leur fait un prêt de 4 millions, plus une subvention, mais ça reste insuffisant. Du coup, en septembre 1950, les castors angevins se transforment en société coopérative d'HLM pour pouvoir bénéficier des prêts à la construction. Mais les demandes de permis de construire sont systématiquement bloquées. Alors, elle ouvre les chantiers sans autorisation. L'administration menace de démolir, mais les castors sont décidés à se défendre. Mais construire sa maison après une journée de boulot, bah, ça met à mal les gens, leur santé. Et du coup, Christine Brisset décide de faire appel à des entrepreneurs. À partir de 1952... un premier chantier avec des entrepreneurs s'ouvre et construit plus de 60 maisons. Ils obtiennent pour ça 8 millions d'anciens francs. Le problème, c'est qu'en construction HLM, il y a beaucoup de choses qui sont interdites. Il n'y a pas le droit au chauffage central, pas le droit aux doubles parois, pas le droit aux gaines pour les fils électriques, pas le droit au garage. Même les carreaux de faïence des salles de bain sont rationnés. Du coup, elle ruse en faisant toutes les installations avant les visites de l'administration. Et une fois que ceux qui visitent sont passés, c'est à ce moment-là qu'ils font tous les raccordements. Du coup, les constructions démarraient avant d'avoir obtenu les autorisations et donc les subventions. Et c'était pour gagner du temps et éviter des morts dans les taudis. Claudius Petit, ministre de la Reconstruction, donc, et Jean Morin, préfet du Maine-et-Loire, inaugurent ces chantiers en sachant qu'elle n'a pas encore les permis de construire. Christine Brisset refuse de donner le moindre pot de vin, ce qui était alors la règle dans l'immobilier, et elle dénonce même ses pratiques. Elle mène de front avec ses équipes, construction et occupation. Elle garde en permanence un pied de biche dans sa 2 chevaux. Pour ouvrir un volet ou une porte. En 1953, elle publie un petit fascicule sur le squattage et sa justification. Jean Morin, le préfet, lui confie officiellement le soin de faire le relevé de toutes les habitations inoccupées pour les réquisitionner et y loger les familles expulsées. En 1959 est construite la première tour d'Angers à Bellevieille, 14 étages et 56 appartements. La maison des jeunes, elle, sera interdite. Elle construit aussi des libres-services, des jardins d'enfants, une pharmacie, une église, des bibliothèques, des lieux de culture, car les cités se construisent parfois dans des lieux éloignés du centre-ville. Et dans les tours construites, il y avait une salle pour des conférences ou des projections. Toutes ces améliorations au strict plan HLM leur valent bien sûr de multiples procès. 49 en tout pour Christine Brisset, car évidemment un plus grand confort, la culture, les loisirs ne saurait être des préoccupations d'une société HLM. Les castors angevins est devenue une entreprise florissante. Des milliers de logements ont été construits, 2 maisons de retraite, de nouveaux terrains à construire. Les réserves financières sont importantes. Mais des ministres veulent le départ de Christine. Des politiciens en vue ont créé la société Les Castors du Maine-et-Loire qui est au bord de la faillite. Un procès les menace pour avoir confondu argent personnel et argent de la société. Il faut étouffer l'affaire. La solution serait de mettre la main sur les castors angevins pour récupérer la cagnotte et les biens immobiliers. À trois reprises au début des années 60, on propose à Christine la Légion d'honneur en échange de son départ. Bien sûr, elle refuse et continue son action sociale imperturbable, sans tenir compte des pressions politiques et des menaces. En 1960, elle ouvre à Angers le cinéma L'Élysée. Et là encore, elle doit se battre contre les règlements HLM qui interdisent de construire autre chose que de l'habitat. Son acharnement porte une fois encore ses fruits, puisqu'elle finit par arracher l'autorisation auprès des ministères de la Construction et de celui des Finances. À Angers, l'opposition contre Christine devient systématique et virulente. Et malgré toutes les autorisations pour la construction du cinéma, les hommes politiques angevins s'élèvent contre ce projet et lui intentent un procès. Dans les années 60, elle devient une cible. De son excentricité acceptable à bousculer le pouvoir, elle devient plus supportable. On veut la réduire au silence. C'est à cette époque que l'abbé Pierre entre dans la sphère publique. Il n'y a dès lors plus besoin de cette femme qui gêne et qui bouscule. Et puis, il y a la cagnotte des castors angevins, tant convoitée à Angers. En mars 62, suite à la guerre d'Algérie, des médecins de l'hôpital d'Oran et 9 familles de harkis doivent être rapatriés à Angers. Ils font appel à Christine pour les reloger, car rien n'est prévu pour les rapatriés qui débarquent à Marseille. Elle prend donc conseil auprès de Claudius Petit et de Robert Buron, qui est ministre des Travaux Publics. Tous les deux lui disent « Faites votre devoir ». Elle lance donc le chantier des 9 maisons, sans attendre les autorisations, puisque les harkis vont arriver. Les castors travaillent jour et nuit. Une plainte est alors déposée pour construction sans permis. Et sans attendre le jugement, le préfet fait arracher portes, volets et fenêtres et entourer les maisons de barbelés. Christine, une fois de plus, est condamnée. De la préfecture, des lettres tracts sont envoyées aux angevins, aux administrations, aux journalistes qui, quasiment depuis le début, soutiennent Christine dans son combat. Et ces lettres affirmaient que Christine est coupable de malversation et qu'elle a ruiné sa société, les Castors Angevins, en vidant les caisses à son profit. Pour elle, qui n'a jamais cessé d'aider financièrement nombre de familles castors et qui payait elle-même les amendes réclamées par les tribunaux, ce sera la pire des accusations. Le préfet demande son renvoi, arguant d'un trou de 530 millions dans le dernier bilan de la société. Alors même que les comptes sont vérifiés par 2 experts, dont l'un est prêté par la Caisse des dépôts, et que Christine demande régulièrement au trésorier payeur général de tout vérifier lui-même. Quelques jours plus tard, les huissiers viennent au bureau des castors et ordonnent à Christine de quitter les lieux. Une plainte est déposée contre elle pour détournement de fonds. Le procès a lieu 2 ans plus tard, en mai 64. Il dure 4 jours. En première instance, elle est condamnée à 2 ans ferme, alors qu'elle n'a pu avoir ni dossier, ni témoin, ni avocat. Elle fait appel. Tous les castors qui la soutenaient sont menacés d'expulsion. En appel, en juin 66, les 3 ministres qui la soutiennent depuis toujours et qui sont encore en fonction à l'époque viennent témoigner au tribunal. Elle parvient à prouver qu'il ne s'agit pas d'un déficit de 530 millions, mais d'une réserve de 530 millions. En sortant, elle demande à la greffière le compte-rendu de l'audience. Celle-ci lui répond que les attendus du jugement et les condamnations sont déjà tapés, mais qu'elle attend la signature. Elle dira sobrement « Je ne pensais pas que la justice pouvait être à ce point tributaire des politiciens. » La cour d'appel la condamne à 1 an de prison et ordonne une expertise pour juger les dommages et intérêts qu'elle aurait causés à la société. Elle est définitivement chassée des castors angevins. Rapidement, tous les biens qui lui avaient été saisis, les meubles, le courrier, les dossiers, la maison de son fils, lui sont rendus. La nouvelle direction des castors angevins admet qu'il ne manque pas un centime, sans pour autant en avertir le tribunal. Affairisme et collusion entre pouvoir politique et justice sont au pouvoir. Christine a très régulièrement réclamé un nouveau procès aux ministres de la Justice et présidents qui se sont succédés. Le 18 novembre 1978, elle reçoit une lettre du ministre de la Justice lui annonçant qu'elle est réhabilitée. Cela décuple sa colère. Elle n'est pas coupable et considère cette réhabilitation comme une insulte. Elle exige une véritable instruction. Ce sera son dernier combat qu'elle mènera pendant 30 ans. Mais ce nouveau procès n'est jamais venu. Les anciens hommes politiques d'Angers étaient encore actifs. Grâce à ces constructions, 2000 familles ont pu être logées. Avec des moyens dérisoires, elle a réussi à faire bouger une montagne d'inertie. Ce procès truqué, cette cabale, n'ont pu effacer son œuvre, dont les multiples constructions font partie de la structure de la ville. Au moment de sa mort, en 1993, Jean Morin dira « Christine, vous n'avez pas vécu hors la loi, c'est la loi qui vous mettait hors d'elle. » Et rappelant sa règle de conduite « Si c'est possible, c'est fait. Si c'est impossible, ce sera fait. » Et clin d'œil de l'histoire, elle finira sa vie dans le 20e arrondissement de Paris, dans le quartier où est né le droit au logement, qui ouvre ses premiers squats. Jean-Baptiste Hérault, président du DAL, jurerait qu'elle leur a insufflé son tempérament de combattante et son énergie obstinée pour défendre la cause des opprimés.
Si mon froid coûtait serre devant le ciel et le toit, on m'a dit à toi, le ciel t'aidera. Mon seul rêve n'étoile, cauchemar d'une vie qu'un espoir cassé. Bien noir comme mes nuits blanches, passé à l'appel étoile. L'éclairus vide, la solitude me guette, l'envie de péter les plombs. Mais n'a dialogué dans ma tête, ouais, j'ai coupé les ponts. Avec leurs mois et leurs baguettes, façon plus rien ne compte. Et même le poids de mon mal-être, alors j'marre. Mais sans savoir où aller, j'en ai marre. Dans ma tête, trop d'idées noires installées, ouais, j'marre. Mais sans savoir où aller, si c'est dormir en frac, dans les marges, une cage d'escalier. Comme une fantôme errant dans ces rues sans bruit. Qui m'enlace et me laisse marcher sans but. Le regard vers le ciel car seules les étoiles brillent. J'ai attendu mais les anges ne sont pas descendus. Les nuits sont tellement froides, chaque matin j'ai le cœur glacé. Rien que je t'emberge en attendant de voir leur passé. Trop de haine envers ce monde on va leur casser. Pendant que les flics cherchent et que la juge rêve de me placer en quatre murs. Mais je me laisserai pas voir, enfant dehors, materné par la liberté. Ma voix n'appartient qu'à moi seul, mais le système ne le voit pas ainsi. Pour eux, je suis qu'une merde échappée d'un tas de ramassis. Enfant de foyer de sang, gros pourcentage élevé dans les stades de la débranche instable et mal élevée à leurs yeux. D'ailleurs, toujours à l'affût, rêvant de liberté. Pour la souffrir chez nous, y'a que la fugue. Mais mes jours libres sont comptés, je perds la boule, ma fatigue à bout. Même le goût de vie vient s'estomper. Impossible, j'y laisse tomber ou que je me rende. Être enfermé dehors, c'est toujours mieux que lorsque l'inverse gronde. Les gens me regardent de haut à force de me voir dehors. Je crains l'arrivée des flics parano, même quand je dors. La liberté a un prix, la galère son mentor. Dès que la nuit tombe, les rues vident et la ville s'endort.
Donc bienvenue, retour sur le plateau avec nos invités, du coup KTY et Léo des Maisons d'hébergement solidaire et du collectif Urgence Sociale. Vous êtes invités dans cette thématique de l'émission Bain de Friture sur l'hébergement d'urgence et la précarité parce que vous avez accompagné pas mal de personnes sur Saint-Nazaire avec une aventure de une structure d'hébergement qui est autonome. Tenus dans des maisons qui sont des squats, sans droit ni titre, pendant 18 mois. Donc, merci d'être là.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour à vous. Et donc, sans transition aucune, est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu les événements qui ont amené justement à la création du collectif Urgence Sociale, comment ce collectif s'est créé, ce qu'il a fait, et l'ouverture des maisons d'hébergement solidaire ?
Ben moi déjà on est tous des militants bénévoles, ben militantes, mais quand on a ouvert ces maisons on est devenus des bénévoles à part entière. Et du coup après un constat de catastrophe sociale, de voir tant de gens à la rue, on s'est dit, notre bande de copains, une dizaine de personnes, se sont dit qu'en fait il fallait faire quelque chose. Et du coup, on a monté un collectif. Et par ce collectif, il y a eu une vingtaine de personnes qui nous ont... Une vingtaine de signatures qui nous ont suivis. Des syndicats, des partis, des collectifs. Et bon, ben voilà.
Il me semble que cette histoire a découlé d'une autre histoire. Peut-être que vous pouvez nous en dire plus.
Il y a une au niveau des maisons d'hébergement solidaires, donc qui ont été ouvertes au mois de février 2021. En fait, il y a une histoire effectivement qui remonte aux Gilets jaunes, parce qu'à Saint-Nazaire, il y a eu dans la stratégie des Gilets jaunes ici celle d'occuper des bâtiments vides pour en faire des lieux d'organisation de la lutte à la base, mais qui en fait ont toujours été aussi des lieux qui ont hébergé des personnes qui étaient aussi en situation de précarité. Et donc il y a eu deux expériences de Maison du Peuple à Saint-Nazaire, donc qui ont duré à peu près 6 mois pour la première et 1 an pour la seconde, un peu moins d'1 an. Et voilà, c'est dans le contexte de ces occupations-là, et aussi de l'expulsion d'un autre collectif en plein hiver, donc l'hiver 2020-2021, comme disait KTY, on a décidé de se mobiliser en particulier sur le terrain du mal logement et pour ouvrir des maisons qui sont des maisons qui appartiennent à la ville de Saint-Nazaire, qui étaient abandonnées depuis plusieurs années, respectivement 3 et 10 ans. Sur lesquels, à notre connaissance à l'époque, il n'y avait aucun projet immobilier, et avec l'idée d'héberger des personnes qui n'avaient pas de solution de logement ou qui étaient en grande précarité, et de montrer à travers ces occupations qu'il y avait des solutions qui pouvaient être trouvées en très peu de temps, avec très peu de moyens, pour mettre des personnes à l'abri.
Il me semble qu'il y avait des revendications qui étaient attachées à l'appel du collectif Urgence Sociale. Est-ce que vous pouvez nous... sur le constat de l'hébergement et des problématiques sur Saint-Nazaire?
Bah effectivement, au moment où le collectif il a été créé, comme disait KTY, avec cette vingtaine d'organisations signataires, il y a eu d'abord en fait une interpellation des pouvoirs publics et des pouvoirs publics locaux sur la situation de la précarité dans leur ville, et où ce collectif Urgence Sociale a demandé aux pouvoirs publics de se mobiliser, d'ouvrir des places d'hébergement d'urgence supplémentaires, a également demandé à ce qu'il y ait des assises de la précarité qui puissent être organisées pour vraiment mettre à plat en fait un vrai constat réaliste avec les acteurs et les actrices du social à Saint-Nazaire, parce qu'il y avait des chiffres qui sortaient là-dessus qui, à notre connaissance, était complètement sous-estimé sur le nombre de personnes à la rue. Et donc voilà, il y avait un certain nombre de revendications comme ça qui ont été portées lors de nombreuses mobilisations pendant des semaines et des semaines. Et en fait, face au silence des pouvoirs publics locaux, ce collectif a décidé de passer la vitesse supérieure et de réquisitionner des maisons vides.
Et du coup, comment, une fois qu'elles ont été ouvertes, comment ça a fonctionné?
Au début, une partie était uniquement pour héberger les gens. Et la deuxième partie, elle regroupait le groupe de Gilets jaunes qui était encore en position de militer. Et après un constat, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup trop de monde qui frappait à notre porte et qu'on n'avait pas assez de place, donc on a décidé pour la deuxième maison de l'utiliser pour de l'hébergement aussi. Donc ça a été dans un premier temps un hébergement
d'urgence,
c'est-à-dire qu'ils arrivaient le soir, ils repartaient le matin, et par la suite, au bout de 6 mois, on les a stabilisés. Il y a eu de l'hébergement stabilisé, donc c'était plus des familles avec des enfants. Et beaucoup plus que la première maison, c'était des SDF avec des chiens. C'était pas du tout la même clientèle. Ouais. Du coup, voilà.
Bah c'est vrai qu'il y a cette particularité qu'il n'y a pas en fait dans d'autres espaces institutionnels d'hébergement, que nous on avait un. Enfin, on faisait un accueil qui était relativement inconditionnel, avec effectivement beaucoup de profils de personnes différentes, quoi, des gens qui avaient connu la rue pendant très longtemps, certains avec des chiens, certains sans chiens, donc des hommes seuls, des femmes seules, des familles avec des enfants, des gens qui avaient des papiers, d'autres qui avaient le statut de réfugiés, parfois des femmes aussi victimes de violences conjugales. Enfin, il y a vraiment des profils de personnes très très variées, ce qui ça aussi bah demandé un travail
des travailleurs précaires,
un travail bénévole de notre part, parce que tu disais tout à l'heure, qui était quand même très exigeant. Enfin, ces maisons elles ont tenu parce que il y avait un collectif, un noyau dur qui quotidiennement, jour et nuit, parce qu'il y avait aussi des veilles de nuit à effectuer, était très mobilisé et pouvait mener ce combat là quoi, et qui a permis quand même au total d'héberger presque 130 personnes en un an et demi. Certaines qui étaient hébergées pour quelques nuits, d'autres qui ont été hébergées même du début à la fin des maisons. C'était assez variable, et avec tout aussi un travail d'accompagnement social, parce que c'était pas uniquement vous rentrez, vous prenez un lit, vous dormez, vous repartez. C'était où est-ce que vous en êtes dans votre situation, au niveau des papiers, au niveau des démarches sociales, administratives, etc. Et comment nous on peut vous accompagner, comment aussi on peut vous mettre parfois en relation avec des structures sociales existantes. Parfois ça se passait bien, parfois il fallait aussi qu'on fasse une partie du travail. Enfin, ça c'est aussi une réalité, parce que nous on s'est confronté à la réalité des conditions de travail des travailleuses et des travailleurs sociaux, qui sont des conditions très difficiles et indignes, et que nous on a dû aussi compenser sur ce terrain là donc c'est pas uniquement sur le terrain de l'hébergement qu'on a compensé, c'est aussi sur le terrain de l'accompagnement social. Et voilà, en montrant évidemment à chaque fois, même si l'inverse a pu être dit dans les médias, notre solidarité vis-à-vis de ces travailleuses et ces travailleurs sociaux.
Et tu disais tout à l'heure que beaucoup de gens venaient frapper aux portes. Comment ces personnes avaient connaissance de l'existence des maisons?
Bah, de bouche à oreille et par les réseaux aussi, réseaux sociaux. On avait une page de Facebook. Et
oui, et il y a aussi, nous on a fait le calcul, presque trois quarts des personnes, là, des 130 personnes qu'on a hébergées, qui nous ont été orientées par des institutions et des associations du social. Donc tout le tissu associatif de Saint-Nazaire nous a orienté des personnes. On a aussi des structures liées à la mairie de Saint-Nazaire comme le CCAS. On a même des personnes qui ont été orientées par le commissariat de police. Enfin, c'est très très varié. Et les chiffres montrent quand même que c'est assez massif, quoi. Qu'on soit quasiment trois quarts des personnes orientées par des structures, ça montre très bien qu'il y avait une utilité et une urgence à ouvrir ces maisons et à en ouvrir d'autres, parce qu'évidemment, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a plein de gens qu'on n'a pas pu accueillir et beaucoup de personnes qu'on a dû refuser faute de place pendant toutes les durées des maisons, et même encore aujourd'hui, alors que ces maisons n'existent plus, ont été expulsées, le téléphone continue à sonner et du coup c'est aussi des appels qu'on relaie via internet auprès des personnes qu'on connaît, quoi.
D'accord. Moi, j'ai entendu du coup que c'était des maisons abandonnées, propriété de la mairie. C'était quoi la réaction de la mairie et des pouvoirs publics par rapport à votre initiative et...
Nous, dès le début des maisons, en fait, on a, dans la continuité des mobilisations qu'on avait organisées avec le collectif Urgence Sociale, on cherchait à ouvrir le dialogue avec la mairie. On savait bien que c'était des maisons qui lui appartenaient. Et donc, nous, dès le début, on a, au bout de quelques semaines, on a envoyé un courrier donc au niveau des personnes hébergées, et avec le soutien déjà de quelques associations, on a envoyé un courrier à la mairie pour lui demander un rendez-vous en vue d'obtenir un bail précaire sur ces maisons, vu qu'à l'heure actuelle, il n'y avait aucun projet prévu dessus. Donc nous, l'idée, la stratégie, c'était de dire, tant qu'il n'y a aucun projet prévu sur ces maisons, nous, on continue à mener ce travail d'hébergement d'urgence. Et limite, on verra, le jour où il y aura un projet, on rediscutera. Mais tant qu'elles sont abandonnées, autant qu'elles servent. C'était ça un petit peu notre posture publique.
La réponse, elle a été celle du tribunal.
Exactement.
Au tribunal.
Ouais. Ça a été l'assignation au tribunal donc dans les semaines qui ont suivi le dépôt de ce courrier. Donc assignation au tribunal, plainte déposée, donc la mairie qui nous demande de quitter les lieux, quoi. Et donc là, ce qui se passe, c'est qu'en parallèle, donc nous, on commence aussi à organiser notre défense sur le terrain judiciaire. On prend une avocate, on prépare un dossier qu'on construit petit à petit. En parallèle de ça, on a de plus en plus d'associations à Saint-Nazaire qui reconnaissent notre travail, qui aussi nous fournissent des attestations pour soutenir en fait la démarche, alors pas forcément sur la stratégie d'occupation illégale où là les associations se positionnaient pas, mais plutôt sur leur travail, il est légitime parce qu'il y a une urgence et ils répondent à une urgence et il faut que ce collectif obtienne un bail précaire. Donc nous on a senti en fait que ce soutien là il a permis à ce qu'il y ait un dialogue qui s'ouvre avec la mairie. Donc ça c'était à l'été 2021. On a pu rencontrer une élue, l'élu aux solidarités et deux autres personnes de la mairie pour ouvrir un dialogue dans l'espoir d'obtenir ce bail précaire. Il y a eu deux rendez-vous qui se sont tenus. Nous, entre ces deux rendez-vous, on a créé une association pour justement permettre que les discussions puissent se faire dans les meilleures conditions. Et en fait, on s'est bien rendu compte que la mairie était inflexible sur... d'un côté, était d'accord pour maintenir un dialogue avec nous et continuer à se voir, mais de l'autre, ne souhaitait pas suspendre ni même annuler la procédure d'expulsion qu'elle avait demandé, qu'elle avait déposée auprès du tribunal. Et donc, nous, ça ne nous semblait pas des conditions... optimale et même respectable pour maintenir un dialogue, sachant que d'un côté on lui dit on va vous mettre dehors, mais de l'autre on nous dit ok, on peut continuer à discuter si vous voulez. Et donc les discussions ne sont pas allées plus loin et donc nous on a continué notre travail et à préparer notre défense au tribunal. Donc 6 passages au total. Il y a eu 5 reports dont la plupart ont été demandés par la mairie. Et donc c'est en avril 2022 que du coup on a eu notre 6e audience. Et dernière audience, le jugement il a été rendu début juin, si je ne me trompe pas. Et donc là, le juge, malgré une prestation de notre avocate qui était quand même impeccable, avec un dossier qui était béton, avec beaucoup de témoignages d'attestation, à la fois des personnes hébergées, de personnes, associations extérieures qui nous soutenaient, de chiffres qui prouvaient l'état de la précarité, du mal logement à Saint-Nazaire, des délais astronomiques qu'il y avait pour trouver un logement social. Enfin voilà, notre dossier était vraiment béton. En face, il n'y avait pas grand-chose autre que le droit de propriété privée que l'avocat de la mairie a brandi. Lui-même a dit qu'il n'y avait pas urgence à nous expulser, mais le juge, du coup, a prononcé un jugement qui était le plus dur possible, à savoir une expulsion immédiate, avec les deux mois de délais minimum légaux. Et donc, c'était pour fin août 2022 qu'on était expulsable.
Du coup, cette expulsion-là, elle a eu lieu, il me semble, le 15 septembre. C'est la fin des maisons d'hébergement solidaire. Qu'est-ce qui se passe pour le collectif Urgence Sociale et qu'est-ce qui s'est passé pour les personnes qui étaient dans les maisons?
Pour les restants, du coup, il nous restait une dizaine de personnes à reloger à la rue, qui n'avaient pas de solution. Donc, on a eu la chance de rencontrer et d'avoir le soutien de Père Arnaud, l'église Saint-Goire, qui nous a prêté son terrain gracieusement pendant 3 semaines. Et du coup, il y a eu un campement avec des toiles de tente et des barnums en attendant une réponse favorable à leur dossier personnel. Voilà. Et du coup,
À côté en parallèle de ce campement, il y a eu une mobilisation très active avec le collectif Urgence Sociale et beaucoup d'associations qui nous ont rejoints dans ce combat et où en fait même avant l'expulsion, en fait, pendant tout l'été, on a alerté les pouvoirs publics, la mairie, la sous-préfecture, en leur demandant, et le 115 et le SIAO, en leur faisant part de l'urgence sociale qui allait découler de l'expulsion, du fait qu'il y aurait une vingtaine de personnes, a priori, qui allaient se retrouver à la rue fin août. Et donc, nous, pendant tout l'été, on n'a eu quasiment aucune réponse de ces pouvoirs publics. Et donc ce qui fait qu'on a dû maintenir cette pression de volonté de dialogue, parce que nous on a réclamé des rendez-vous avec la sous-préfecture, avec la mairie, on a demandé au 115 de venir rencontrer les personnes hébergées aux maisons pour essayer de trouver des solutions au moment de l'expulsion. Enfin, on a vraiment à nouveau été dans une stratégie de la main tendue et d'une volonté de dialogue. Il y a beaucoup d'associations qui nous ont accompagnés là-dedans. Et en définitive, ça n'a pas permis d'empêcher l'expulsion. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, on a réussi quand même à renouer un dialogue avec la mairie. Nous, notre stratégie, c'était de dire, écoutez, Il y avait les maisons d'hébergement solidaire boulevard Jean de Néman. Il y a d'autres bâtiments que vous possédez qui sont viables, qui sont salubres, dans lesquels vous pouvez, en bail précaire avec d'autres structures que la nôtre, mettre les personnes à l'abri. Chose qu'on a réussi à faire en définitive pour 5 personnes. Donc ça, ça a été quand même aussi une victoire. Un peu comme conclusion un petit peu de cette expérience là, c'est que même s'il y a beaucoup de personnes expulsées qui ont été relogées plutôt par des voies du réseau qu'on a, grâce à des réseaux d'hébergeurs solidaires, grâce à l'église, grâce à Emmaüs, etc. Donc ça, c'était plutôt des solutions que nous on arrivait à activer de notre côté. Les dernières personnes à reloger, c'est grâce à ce travail aussi de pression qu'on a maintenu pendant des mois, que la mairie a accepté de réouvrir une maison qu'elle possède, de payer les fluides, l'État qui aussi a mis un petit peu de sous pour qu'une association puisse suivre les personnes hébergées, les accompagner quotidiennement. Et voilà, donc ça s'est terminé là-dessus au niveau des dernières personnes expulsées. Voilà.
Tout à l'heure, vous parliez de relations avec la mairie, et là, qu'est-ce qui va se passer dans les semaines, dans les mois à venir ?
Alors effectivement, il y a dans le contexte de l'expulsion le maire de Saint-Nazaire qui a fait une déclaration en disant qu'il était prêt à se mettre autour de la table avec d'autres associations du social et notre collectif, en invitant vraiment tous les acteurs et actrices concernés sur ces questions d'hébergement d'urgence autour de la table pour travailler à des solutions pérennes. Donc nous on a accueilli ça évidemment positivement. Et donc aujourd'hui, là, dans la continuité de cette maison dont on parlait, que la mairie vient d'ouvrir pour les dernières personnes expulsées, l'idée c'est qu'il y a un dialogue qui s'instaure dans les semaines et mois à venir pour que ce type de solution, donc de maisons abandonnées qui appartiennent au pouvoir public et qui s'ouvrent pour accueillir des gens à la rue, puisse se développer et répondre à l'ensemble des situations de mal logement sur Saint-Nazaire. Donc c'est un peu ça les perspectives. Il n'y a pas encore eu de rendez-vous, c'est en train de se construire. Nous, tout ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que le sous-préfet de Saint-Nazaire a déclaré officiellement ne pas souhaiter y prendre part, a priori en grande partie parce qu'on était autour de la table et qu'on n'était pas forcément reconnu comme un acteur légitime. Mais bon, tant que déjà il y a la mairie, d'autres associations, c'est déjà un bon début. Donc ça, c'est les perspectives plus concrètes. Donc ça montre quand même que ce combat des un an et demi des maisons d'hébergement solidaire a permis de pas, après l'expulsion, revenir vraiment au point de départ, mais quand même de faire avancer en termes de stratégie sur la question de l'hébergement d'urgence. Ça a vraiment permis de faire avancer quelque chose, parce qu'en fait, le modèle que nous, on a défendu pendant un an et demi, il est potentiellement en train de se développer, on espère de se pérenniser, même si on n'est pas encore au stade où on peut l'affirmer, mais en tout cas c'est le combat pour les mois à venir.
Ok, merci beaucoup pour votre témoignage. Je sais que sur Saint-Nazaire, votre travail a été remarquable et remarqué, et je crois que la politique de relogement et d'hébergement n'a jamais autant avancé que ces derniers mois. Alors après, on va voir ce que ça donne, hein, parce qu'il ne s'agit pas de faire des promesses et de ne pas les tenir. Je parle de la municipalité, bien sûr. Mais en tout cas, ça se bouge un petit peu de leur côté. Souhaitons que ça perdure dans cette voie-là. Merci beaucoup encore. Et on va enchaîner sur une musique d'Oxmo Puccino et de Kerry James qui s'appelle « Sans abri ».
Super. Allez,
les astrologues disent que vous êtes tous heureux. À la télé, ils disent que vous êtes généreux. C'est pas grave. Encore un rap sur les sans-abri. Que vais-je dire de plus qui n'a pas été dit? Donc je dédie ces rimes aux opprimés, aux déprimés, aux incompris. À chaque famille brisée sans le savoir, les sans-abri sont bien plus proches que l'on croit. Quoi beaucoup s'étonnent, je déconne. Tous les mêmes souffrances, soupirées en silence. De leur indifférence qui leur reste comme un poids.
Leur point commun reste leur indifférence. Ainsi la misère des autres les laisse indifférents. Je les ai vus ricaner, oh, nés des sans-abri. sans-abri, croyant à l'abri, ceux dont Dieu les abrite. Aucune compassion, pas une pièce, même pas un sourire, pas même un soupçon de gentillesse pour ne pas secourir aux déshérités, aux miséreux. Les excuses sont nombreuses pour ceux qui sont désireux de garder pour eux-mêmes ce qu'ils croient avoir acquis. Appartenait à d'autres, appartiendra à d'autres. Ainsi va la vie. Tu verras sur leur trait cette terre supérieure, échec extérieur qui cache pauvreté intérieure. Lâche coupable, mais libre, pire, se croyant meilleur. Ex-magouilleur, en costard, futur balayeur. Ces gens sont tellement accrochés à leur argent. Ils ont toujours l'impression d'être au bout du rouleau.
En fait, ils se trompent de but et cachent une flûte sous leurs apparences. En jouent quand il fait beau, se font entendre les jours de chance. Et vivent de faux semblants et en font toute leur vie. Poussent les troupes conscience de gestes d'artifice. Espèce de histoire, ce qu'ils ne font pas tout bas. Verser sous à Téléthon et se foutent de ce qui se passe en bas de chez eux. Mais quand les blèmes les concernent, ils savent tous se taire. Tout le monde peut avoir une fille toxicomane ou un fils qui fait des bénéfices avec des busiles ici. En attendant que ça nous arrive, on se félicite. Et le fils a des bonnes notes dans le plébiscite. Sache que le bonheur des uns fait le malheur des autres. Même si tu fais semblant, quelqu'un rêvera que tu te fous. C'est pour ça qu'on est tous tristes. L'égoïsme se transmet de père en fils. Mettre un gosse au monde de l'héroïsme.
Gosse, il faut que t'enseignes la charité avant que ce monde féroce ne les imprègne de vanité, avant que ce monde atroce ne leur apprenne que marcher sur les siens est de bonne guerre, ingrédient nécessaire à leur réussite. Triste société d'égoïstes, m'attriste mes cœurs, car au contraire d'être j'ai du cœur de l'amour. Chaque cœur qui bat, issu du bas, je vise le haut et pour ça je me bats. Mon combat a ses limites, car je veux être des gens bien, avoir des principes comme Kima, que Sti ou Zinzin. Mais trop boulot, dodo, appétit, c'est une vie, c'est une vie, c'est un qui leur donne cette arme détestable, froid, jusqu'à l'effroi. L'hiver en été, mais en qui ces gens envoient. Ils courent alors que l'État ne fait que reculer leur retraite. Ils ont placé père et mère sans pitié en maison de retraite. La 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 la.
Et ben voilà, c'est déjà la fin.
Le bain de fritire, c'est fini pour aujourd'hui, mais on va se retrouver dans 2 mois, à peu près, sur JTFM toujours, pour une deuxième émission.
Et d'ici là, eh ben, on va peut-être se croiser dans la rue. Normalement, le mouvement social devrait avoir bien commencé d'ici là.
Donc, gardez la frite, mes petites patates.